Aujourd'hui, on va parler du conflit, notre conflit. Donc, c'est la suite dans le message ou le suivi du thème du péché. Mais aujourd'hui, on va au-delà simplement du problème du péché. On va voir comment Dieu s'occupe de notre problème. Donc, le message du péché est une mauvaise nouvelle et un message de condamnation. Et le péché est réel. C'est un grand problème. Ça gâche nos relations avec Dieu. Ça gâche les relations avec nos prochains. Et puis, bien sûr, ça aboutit dans la mort physique. Et par la suite, la séparation éternelle avec Dieu dans la souffrance éternelle. Ce n'est pas un beau message. Donc là, on va parler de comment Dieu a réglé ce problème, comment Dieu s'occupe de notre problème, du péché. Okay? Donc là, je vais commencer dans le texte que j'ai déjà lu, psaume 103, versets 10 à 14. Psaume 103, versets 10 à 14. Dieu, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Quand on voit cette phrase, ceux qui le craignent, ce sont des saints de l'Ancien Testament, c'est des croyants comme Abraham, comme David. Ok? Autant sa bonté est grande pour les croyants, pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et c'est loin, hein, pour le dire. Quand Dieu sépare l'Est et l'Ouest et dit que nos péchés entre nous et nos péchés, c'est loin par le pardon que nous avons en Jésus-Christ. On ne peut pas être plus loin, hein, Est et Ouest. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, donc des croyants. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, la gloire du message de Jésus, c'est que Dieu nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Ce n'est pas nous qui nous justifions. Ce n'est pas nous qui sommes justes. Car nous ne le sommes pas, on est injustes. Mais c'est Dieu qui nous justifie. La justification est un acte unique de la part de Dieu au moment qu'une personne met sa confiance en Jésus-Christ. Et comme on va lire tout à l'heure dans Romains chapitre 8 et verset 33, c'est Dieu qui justifie. Grâce à l'évangile de Jésus-Christ, Dieu justifie le pécheur. Ceci veut dire que Dieu pardonne, il enlève nos péchés et il donne une position de justifier ou de purifier aux yeux de Dieu. Ceci ne veut pas dire que nous sommes justes ou que nous sommes purs. Jésus est juste et Jésus est pur. Nous sommes justifiés et nous sommes purifiés. C'est Dieu qui a fait une action sur nous pour nous transformer, d'être conformes à sa sainteté. À travers et en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés saints grâce au sacrifice de Jésus et justifiés grâce à sa résurrection. Dans Romains chapitre 4, la plupart des versets sont dans l'épître aux Romains ce matin. Romains chapitre 4, versets 3 à 8, nous lisons. Donc, Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc je je contracte légèrement le prochain quelques phrases. Dieu est celui qui justifie l'impie, la foi lui est imputée à justice. Je n'ai pas lu tous les mots. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il aurait pu le faire. Il n'était pas obligé de nous sauver. Mais par sa grâce, il a fait tout le nécessaire pour que ceux qui acceptent par la foi le sacrifice de son Fils puissent être purifiés. Donc Abraham et David ont cru en avant, bien en avant, à l'accomplissement futur de l'Évangile, et nous, nous croyons maintenant en regardant dans le passé à l'œuvre accomplie par Jésus. On peut sauter à Romains chapitre 8. Je vais lire versets 1 et 2 et après je vais sauter au verset 31. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, il y a bien sûr de la condamnation. Ils n'ont pas accepté Jésus pour le Sauveur. Donc, ils restent condamnés. La colère de Dieu demeure sur eux. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons plus de condamnation. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, je saute au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est le plus grand? Dieu est le plus grand. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Le péché est contre Dieu. C'est Dieu que nous avons offensé. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut nous condamner? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, du fait que Dieu a permis à son Fils de se sacrifier sur la croix, par cet acte d'amour pour nous, comment ça pourrait se faire que Dieu ne nous pardonne pas suite à l'Évangile? Ce serait un acte insensé que Dieu vienne sur terre pour mourir pour nos péchés et par la suite, il dit, je ne vous pardonne pas. C'est illogique. Il est venu pour une raison, c'est pour nous sauver. Et donc, il nous sauve. Et pourtant, combien de chrétiens qui disent, ah, mais j'ai certainement commis un péché qui n'est pas pardonné par Jésus. C'est insensé. Il est mort une fois pour tout péché, pour le monde entier. Il ne va pas revenir mourir une seconde fois. Dieu, quand il est venu pour ôter le péché du monde. Et il l'a fait. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut nous accuser? Avec efficacité, je veux dire. Ah, n'importe qui peut dire, ah, mais regarde lui, hein? Moi, je peux me critiquer. Mais dans les yeux de Dieu, il nous voit à travers Jésus-Christ, il nous voit justifiés. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc non pas seulement Jésus a enlevé tous nos péchés, mais en attendant qu'on meure et on va entrer dans la présence de Dieu, eh bien, Jésus plaide notre cause. C'est vrai, il a péché, mais je suis déjà morte pour ce péché-là. Et pour cela, et pour cela, et pour cela, et pour cela. Il continue à intercéder pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Trois points. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui peut le faire? Et la réponse, bien sûr, est que personne ni rien, personne ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu exprimé en Jésus-Christ. Cependant, la justification n'est pas la perfection. Dieu nous a justifiés, mais il ne nous a pas perfectionnés. Je n'ai pas besoin de vous persuader. On se connaisse chacun. Hein? La justification n'est pas la perfection. Donc, la vie n'est pas toute belle. Le monde dans lequel nous vivons attire nos regards et promet ses satisfactions et ses plaisirs. Ça nous entoure. On ne peut pas échapper le monde, sauf au moment qu'on va quitter la planète quand on meurt, n'est-ce pas? Aussi, notre nature humaine est toujours là et aimerait bien répondre aux appels du monde. Donc, j'ai commandé plein de copies de ça, ce livre « Les deux natures du croyant » qui vient de Valence. Donc, vous pouvez prendre une copie pour lire. On a nos deux natures, la nature de Dieu qui nous a donné à la nouvelle naissance, et on a notre nature humaine qui est toujours là. Puis on a encore ce diable. Le diable n'est pas notre maître parce que on a changé de camp, on est dans le camp de Dieu maintenant. Mais ça veut dire que il n'est pas notre maître, mais il est devenu notre ennemi mortel. Parce qu'il est contre nous, parce que nous sommes de Dieu. Et le diable, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentleman. Il ne va pas attendre que vous vous relevez avant de vous écraser une seconde fois. Le diable cherche à détruire. Il cherche à tuer. Il cherche à empêcher qu'on fasse le bien. Il cherche à nous neutraliser. Il cherche à nous garder dans l'ignorance et il cherche à se servir de nous pour faire honte à Dieu. Il peine plein d'autres choses comme objectif. Le Seigneur nous a avertis, donc je vais lire deux versets, deux demi-versets en fait, dans 2 Corinthiens 2:11, « Ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et aussi dans Éphésiens 4, 27, une demi-phrase, « Ne donnez pas accès au diable. » Il est là, mais il n'a pas d'autorité. Il est usurpeur. Il n'a pas de droit sur nous. Okay? Mais il utilise des méthodes pour nous tromper, pour nous piéger. Et là, je vais vous lire une petite liste. Il y a probablement d'autres choses aussi. Il utilise le découragement, la frustration, la confusion, l'échec moral, l'erreur doctrinale et le détournement des Écritures. Il se fait passer pour un ange de lumière. Il utilise la tromperie, la séduction spirituelle. Il utilise des signes, des miracles, des prodiges mensongères. Il fait la proposition d'obtenir des bonnes fins en se servant du mal. Non. Jamais se servir du mal pour obtenir une bonne chose. Et puis, à la fin aussi, il incite notre nature pécheresse afin qu'on ne vit pas pour Dieu. Et c'est parce que le péché est toujours en nous, c'est-à-dire qu'on est toujours être humain, que nous avons des difficultés, que nous nous trouvons dans ce conflit. Paul dit dans Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et au verset 20, c'est le péché qui habite en moi. Donc, il utilise ce vocabulaire dans ma chair. Donc, on a tout un tas de mots qui veulent dire la même chose. Donc, le moi, la chair, la nature humaine, notre humanité, le vieil homme, toutes ces choses parlent de notre nature pécheresse qui est collée à nous. Hein, c'est là avec nous toute notre vie. Et voilà pourquoi le conflit. Mais nous ne sommes pas seuls dans le conflit. Bien que le péché est toujours en nous, nous ne sommes plus sous son autorité et nous ne sommes plus obligés à l'obéir. Pourquoi? Parce que Dieu donne à tout croyant son Saint-Esprit au moment de la justification, au moment de la nouvelle naissance, au moment qu'il met en nous son Saint-Esprit, eh bien, il va nous accompagner pendant toute notre vie terrestre, depuis le moment de notre nouvelle naissance, juste au moment qu'on retourne au Seigneur. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, et donc versets 10 à 13, si vous voulez chercher, Romains chapitre 10, verset Romains chapitre 8, verset 10 à 13. Et si, et donc le mot si peut se traduire quand, ça peut traduire puisque, ça peut se traduire s'il est vrai que, ok? Donc le mot, c'est un tout petit mot en grec, mais ça veut dire plusieurs choses. S'il est vrai que Christ est en vous, donc dans le cas où vous êtes chrétien, ceci est vrai. Et dans le cas où vous n'êtes pas chrétien, ceci n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, dans le cas où vous êtes chrétien, s'il est vrai que Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si, ou puisque, ou s'il est vrai que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc, ceci est vrai pour tout croyant en Jésus-Christ. Donc, puisque l'Esprit de Christ, puisque l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est une vérité pour tout croyant. Puisque l'Esprit est en vous, puisque vous avez cru en Jésus-Christ. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, oh, donc, dans le cas où s'il est vrai que vous vivez dans la chair, que vous vivez comme tous les gens autour, eh bien, vous mourrez. C'est-à-dire, si vous, en tant que chrétien, dans lequel l'Esprit de Dieu habite, si vous vivez comme un homme naturel, selon la nature pécheresse, vous allez gâcher votre vie et vous allez mourir. Mais, si par l'Esprit, donc dans le cas que vous étant chrétien, vous vivez par l'Esprit qui est en vous, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie s'appelle l'œuvre de la sanctification. Alors, la sanctification est différente vis-à-vis de la justification. L'idée est d'être mise à part, appartenir à Dieu pour servir Dieu. OK? Ça, c'est l'idée de sanctification. C'est le même mot que la sainteté. On est mise à part pour servir Dieu. La vie chrétienne est une vie de séparation avec le monde. Donc, c'est pas normal que le chrétien va participer dans toutes les activités du monde. Parce qu'il y a plein de choses dans le monde qui sont en guerre contre Dieu. La justification est dans le passé. La sanctification est dans le présent et le futur. C'est au moment qu'on a cru en Jésus-Christ, on était justifié. Et la justification ne changera jamais. C'est un acte que Dieu a fait une fois dans les lieux célestes et vous ne pouvez même pas accéder pour le changer. La sanctification est un changement progressif, donc de progrès en progrès, vers la volonté de Dieu avec les hauts et les bas en chemin, hein, comme Romains chapitre 7. La sanctification et la victoire sur le péché, selon le plan de Dieu, pendant votre vie. Le Saint-Esprit œuvre en vous. Soyez donc patients. Vous n'êtes plus ce que vous étiez grâce à l'œuvre de la sanctification. Hein? Quand vous regardez, vous dites, « Ah, je suis pécheur. » Et c'est vrai. Mais quand vous regardez dans votre passé, vous dites, « Ah, je ne suis pas aussi pire qu'avant. » Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'avenir, si vous marchez avec Dieu, vous allez encore être un meilleur chrétien que vous êtes aujourd'hui. La sanctification est une bataille constante et perpétuelle visant l'affaiblissement du corps, l'affaiblissement du péché dans nos vies. Ok, excuse-moi, je vais le relire. La sanctification est une bataille constante et perpétuelle visant l'affaiblissement du péché dans nos vies. C'est le chemin du remplacement des habitudes pécheresses par des habitudes de justice. Il y aura des péchés de long terme, peut-être, dans votre vie, ce qui semble vous avoir embêté depuis toujours. Et puis, il y a peut-être des petits péchés qui sont dans votre vie. En tout cas, vous devez demander à Dieu en premier de vous donner la victoire. Dieu peut vous délivrer de toutes choses. Il peut le faire. Ayez confiance en Dieu, que ce soit les petites choses ou les problèmes gigantesques. Ayez confiance en Dieu. Reconnaissez votre position en Christ. En Christ, vous êtes justifié. Donc, quand on dit la sanctification et la sanctification, au moment de croire en Jésus-Christ, Dieu nous déclare saint. On est justifié. Il nous a rendus parfaitement agréables à Dieu, aux yeux de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, il y a la sanctification progressive, dont je suis en train de parler, à travers toute notre vie. C'est la réalité quotidienne. Et puis, il y a l'accomplissement de la sanctification quand nous allons entrer dans la présence de Dieu dans le futur. Donc, il y a trois stades de la sanctification, mais j'utilise aujourd'hui, je parle de la justification parce que c'est en même temps, c'est la même chose à ce moment-là, quand on a cru en Jésus-Christ. Et j'utilise le mot la sanctification pour la progression dans notre vie. Donc, il faut remercier le Seigneur pour le progrès au fur et à mesure qu'il vous accorde la victoire par l'œuvre du Saint-Esprit. Une autre chose qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun péché qui va vous suivre au ciel. Vous allez laisser tous vos péchés derrière vous. Hein, quand vous partez de cette terre et que vous allez monter là-haut, aucun péché ne va vous suivre. Vous êtes pécheur, mais vous êtes sauvé par la grâce. Dieu vous a accepté en Jésus-Christ et il vous aime même en ce moment. Donc, il faut aller à l'avant dans notre vie de chrétienne. On peut lire aussi dans Romains chapitre 8 et je vais lire versets 12 à 16. Donc, c'est certaines parties qu'on a déjà lues, mais je vais relire. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Il n'y a aucune raison de vivre comme un non-chrétien, de vivre selon l'humanité. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, malgré tout cela, il faut bien faire attention de ne pas vous dévier sur une fausse piste. Okay? Par exemple, il ne faut pas attendre que vous allez devenir parfait. Ça ne va pas arriver. Pas dans cette vie. Il ne faut pas abriter un péché dans votre cœur. Il ne faut pas remplacer un péché par un autre péché. Oh, mais j'ai arrêté de faire cet péché parce que j'ai commencé à faire l'autre péché. Ça, vous ne gagnez rien là. Ça n'est pas bien. Okay? Il ne faut pas arrêter de manière temporaire un certain péché parce que vous craignez que Dieu va vous punir. Il faut totalement abandonner ce péché. Mais pas simplement pendant le temps que vous avez peur. Non. Il faut l'abandonner parce que c'est la chose à faire. Et puis, il ne faut pas essayer de vaincre le péché par les moyens humains, par les moyens matérialistes. Okay? Le péché est un problème de cœur. Okay? Ce sont des fausses pistes qu'on pourrait prendre. Donc, pour terminer, en conclusion, et puis je vais lire encore un verset, un texte en romain, mais il faut compter sur le Saint-Esprit qui va vous aider. Et on va parler la semaine prochaine plus à ce sujet, le Saint-Esprit. Okay? Mais pour l'instant, il faut voir qu'il y a la bénédiction de Dieu sur votre vie et il faut suivre ses instructions qu'il nous a données dans sa parole. Restez sur le chemin tracé par Jésus et ne vous détournez pas sur les autres pistes. Le bonheur et la volonté de Dieu. Donc, cherchez la volonté de Dieu pour être heureux. Et Jésus appelait ça la vie abondante. Abondante. La vie abondante. Remerciez Dieu pour votre salut ainsi que pour les changements qu'il a déjà fait en vous. Et donc, restez patient en ce qu'il fera par la suite. Paul a dit dans Philippiens 1:16, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Okay, donc, je vais terminer avec Romains 8, versets 35 à 39. Si vous voulez lire, voir ça avec moi. Romains chapitre 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Verset 36. « Selon qu'il écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous assure de son amour et de son salut éternel. On peut rester assuré dans ces choses-là, bien qu'on doit continuer à lutter de jour en jour et peut-être de heure en heure les choses qui nous tentent et qui nous fracasse. Mais Dieu nous rend vainqueurs. Il a dit dans le texte que je viens de lire. Il nous rend vainqueurs. Amen.
Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.